Vous l'avez entendu, un bref passage tiré de l'évangile de Jean et notre texte du jour d'aujourd'hui. Quand un prédicateur est confronté à l'évangile de Jean, il est obligé de partager avec son audience un peu de théologie, puisque l'évangile de Jean est déjà un second degré de perception théologique. Donc, je tenais à vous prévenir un petit peu. Par exemple, l'évangile de Jean est le seul texte du Nouveau Testament où l'on pourrait être mis en demeure de se demander si vraiment Jésus est Dieu. Peut-être que pour vous, la question ne se pose pas, dans un sens ou dans l'autre. Mais déjà, permettez-moi de vous dire que si pour vous, la question est tranchée, vous avez donc la connaissance, et j'ignore comment vous avez pu l'acquérir, la connaissance de ce qui est Dieu et de ce qui ne l'est pas. Mais peut-être que pour vous aussi, historien, vous avez reconnu que cette question était tranchée depuis ce qu'on appelle le concile de Nicée au IVe siècle. Quand l'Église œcuménique a affirmé d'ailleurs contre une autre vision qu'on pourrait appeler aujourd'hui rationaliste, qui était porté par un courant qui s'appelle l'arianisme, a affirmé donc au IVe siècle, cette Église, que le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, était consubstantiel au Père, donc était Dieu lui-même, donc Jésus était Dieu. Et nous avons eu cette déclaration de foi, cette confession de foi, pardon, que parfois nous lisons, en tout cas en partie, dans nos églises, en particulier dans les événements œcuméniques. Je vous lis juste le début. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, à un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, avec une traduction très littérale du grec. Nul doute que l'évangile de Jean, particulièrement, était celui qui a pu nourrir une telle décision et une telle assemblée qui a éteint finalement, en tout cas sous sa forme officielle, un courant qui considérait que Jésus était certes un être privilégié par rapport à Dieu, mais n'était, c'est le mot employé, n'était qu'une créature. Ce sont des débats anciens, certes. En même temps, vous allez voir que c'est difficile, finalement, quand on est chrétien, de ne pas se positionner. Alors, nul doute, oui, que l'évangile de Jean particulièrement était celui qui a pu nourrir cette décision, déjà à cause de certains témoignages qui sont de l'ordre de l'exclamation qu'on trouve dans Jean, par exemple celui de Thomas, qui dit à Jésus, qui s'exclame, Mon Seigneur et mon Dieu, au chapitre 20 de Jean. Donc un témoignage vers la fin d'un évangile qui, rappelez-vous, avait commencé comme ça. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était près de Dieu, et le Verbe était Dieu. Mais aussi, tout au long de cet évangile de Jean, on y découvre la description permanente d'une certaine intimité, d'une véritable proximité que celui-ci, Jésus, dit avoir avec celui qu'il appelle son Père, j'insiste. Déjà qu'il l'appelle Père, même si pour nous, ça a l'air d'une banalité, qu'il l'appelle Père, ou qu'on puisse voir dans un récit qu'un être privilégié appelle le Dieu d'Israël Père, est déjà très original. Mais qu'il le désigne comme son Père est presque inouï. En effet, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, les prières qui appellent Dieu Père sont rarissimes. Et quand elles arrivent, c'est vraiment des textes très tardifs, pas du tout originels, comme dans Ésaïe 63, par exemple. Car on va dire que le judaïsme aurait résisté à une certaine habitude, finalement, des autres religions où les dieux et les déesses s'unissent, vous le savez, et deviennent des pères et des mères. Et Jésus, là, en fait, influencé, pas influencé, je n'en sais rien, bouscule cette réticence. C'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce, dit-il, quand il chasse les vendeurs du temple. On sent bien cette étonnante proximité dans cette formulation-là. C'est la maison de mon père. Et on la sent d'autant plus, Jésus chasse les marchands du temple, c'est dans les quatre évangiles. Mais ailleurs que dans Jean, on lit, par exemple dans Matthieu, on lit que Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, or vous, vous en faites une caverne de bandits. Alors on peut passer tout de suite sur la nuance, hein, mais c'en est plus qu'une. Dans les trois autres évangiles, Jésus prend le soin de citer l'Écriture, hein, et dans Jean, c'est direct, c'est la maison de mon père. Et non pas, il est écrit, ce devait être une maison de prière. Ailleurs que dans Jean, donc, dans Matthieu, Marc et Luc, on voit certes un prophète en colère, certes qui agit pour le respect de l'héritage et de la définition sacrée du lieu, mais dans Jean, on voit quelqu'un, on découvre un fils qui ne supporte pas qu'on méprise son père, finalement. On va dire que sa colère, là, est beaucoup plus qu'idéologique ou religieuse. Elle est familiale. En tout cas, c'est ce que semble vouloir surligner Jean, en changeant probablement la phrase, ou, finalement, c'est l'autre hypothèse, en rétablissant la véritable phrase. Qui sait? On ne peut pas savoir. Cette façon qu'a le Jésus de l'évangile de Jean de se référer à son père, vraiment, n'a pas plu à ses contemporains. Ça, c'est très bien relaté. Et je vais uniquement citer des passages de l'évangile de Jean, qui est notre évangile du jour, et je ne vais pas les référencer parce que ce serait trop lourd, mais ce sera pour vous donner juste une idée de cette allée permanente, de ce bruit-là qui parcourt l'évangile de Jean. Alors, cet homme s'en alla, c'est quelqu'un, hein, et annonça aux Judéens que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Judéens poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. À cause de ça, les Judéens cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, on dirait que Jésus se défend, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, déjà il le voit, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc finalement, c'est une défense qui revient au même. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le pouvoir. Car comme le Père, excusez-moi, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et là, le Fils devient l'instance suprême du jugement. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Avoir la vie en soi-même, ça veut dire être là depuis toute éternité finalement. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. » Et ça continue, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Et Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père, et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je connais mes moutons, et ils me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Plus loin encore, maintenant mon âme est troublée, et qu'est-ce que je vais dire? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Et puis, Philippe, un disciple, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, c'est une des grandes insistances de l'évangile de Jean. En fait, chez Jean, le mot Dieu, carrément, est systématiquement remplacé par le mot Père. Et son Père, du coup. Et notre texte du jour est un paroxysme quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Voilà. Donc là, c'est là que vous êtes appelé à vous demander... Tiens, il y a des sources dans l'évangile de toutes les confessions de foi que j'entends et devant lesquelles je ne me suis finalement presque jamais positionné. Si on ajoute à ça que dans d'autres évangiles, il est dénoté que Jésus appelle son Père non seulement Père, mais Papa, vous le savez, Abba en araméen. Vois par exemple dans Marc. Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bon. Eh bien, avec tout ça, on est en droit de se poser quelques remarques et quelques questions fondamentales de théologie. Déjà, on va plus s'étonner du glissement de l'expression presque courante d'un titre particulier qui est celui de Fils de Dieu, qui était, par exemple, attribué au roi. Et on lit ça dans, par exemple, le second livre de Samuel. Ou qui était attribué, et ça c'est quelque chose qu'on sait moins, à tout le peuple. Par exemple, au chapitre 2 du prophète Osée. Comme le sable de la mer que l'on ne peut ni compter ni mesurer, ainsi sera le nombre des fils d'Israël. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Voilà, le peuple, fils de Dieu. Donc on ne va pas s'étonner que dans la théologie chrétienne, ce titre royal ou symbolique puisse basculer vers Jésus exclusivement, qui est le Fils de Dieu. Et s'il était auparavant inconcevable que ce titre puisse conférer de la divinité à celui qui le recevait, un roi n'a jamais été Dieu, un peuple n'a jamais été Dieu, la théologie chrétienne officielle a franchi le pas. Fils de Dieu égale Dieu. La question n'est pas Jésus est-il Dieu, mais elle est Jésus, d'après les évangiles, considérait-il Dieu comme son Père, et pas de la façon que nous avons, nous, de dire notre Père, par exemple, ou parfois de prier en disant Père, et en cela, nous sommes influencés par les conciles, finalement, qui eux-mêmes s'inspirent des évangiles de Jean en particulier. Mais Jésus considérait-il Dieu comme son papa? Et j'insiste là-dessus, même si ça a l'air un peu bizarre ce que je dis. C'est pour tenter de voir ce qu'il y avait peut-être d'assez personnel dans ces constructions théologiques. Eh bien, si la question c'est Jésus considérait-il Dieu comme son père ou comme son papa? Eh bien, la réponse est oui. Voilà. Et si je me permets de l'affirmer ainsi, c'est que cette façon de faire, je le répète, dans son milieu, dans son éducation à Jésus, inspirée en grande partie par les pharisiens qui sont assez stricts sur ce sujet, eh bien, cette façon de faire, de penser, est complètement extraordinaire et rationnellement, cette fois, aurait pu difficilement être inventée de toutes pièces par des gens qui se sont dit « Tiens, on va faire ça ». Alors que Jésus ne disait pas du tout ça, nous on va faire ça, mais ça aurait été difficile pour eux d'avoir cette idée. Alors, nous avons les libéraux protestants. Les protestants libéraux. Donc c'est un grand courant qui date du 19e siècle et dont notre Église, parfois, est considérée comme faisant partie. Alors que nous n'avons rien dit pour être considéré ainsi. Mais pourquoi pas? Alors, les protestants libéraux, officiellement, alors évidemment, ils diraient que non, c'est plus complexe que ça. Ne crois pas que Jésus est Dieu. Oh là. Encore une fois, je peux leur répondre. Donc, ils savent de ce qui est Dieu et ce qui ne l'est pas. Bon, ça, c'est une autre histoire. Cet argument que je ressors à chaque fois n'a aucune influence en général, mais ça m'étonne les gens qui affirment des choses comme ça. Ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Comment le savent-ils? Bon, en tout cas, ces protestants libéraux, très intelligents, et donc, comme nous en faisons partie, eh bien, c'est une auto-congratulation, appuient leur argument sur le fait que, par ailleurs exact, un fait tout à fait réel, que les dernières rédactions des évangiles, et en particulier celui de Jean, proviennent déjà d'une église qu'on appelle proto-institutionnelle. Hein, une église qui aurait donc injecté dans les textes des évangiles les premiers textes, hein, les premières rédactions, des normes, des formules, des dogmes, des croyances bien postérieures aux paroles réelles de Jésus. Voilà ce qu'ils disent. Et c'est vrai ça aussi. Par exemple, quand on a dans l'évangile de Matthieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est évident que cette formule provient de peut-être de 2 siècles après. Alors pour ma part, je vais faire une autre hypothèse, si je peux me permettre. Après des débats de 2000 ans, d'arriver aussi peu modeste. Alors, il est fort possible que Jésus considérait Dieu comme son père, au point de l'appeler papa, et non pas un père comme ça, comme nous pouvons le dire. Hein. Mais j'essaie vraiment de vous le faire saisir, que Jésus, lui-même, être singulier, considérait le Dieu d'Israël comme son père, au point de l'appeler Abba, au point de se révolter contre ceux qui, selon lui, corrompent la maison de celui qu'il appelait son père. Au point peut-être d'avoir dit un jour, réellement, moi et le père, nous sommes un. Et la suite de cette hypothèse est que, en fait, les formulations théologiques ont dû suivre ça, de fil en aiguille, ont dû s'adapter à ce phénomène, à cet inouï. Et ce, jusqu'au point de devenir des dogmes rassurants et plan-plan, et jusqu'au point que la plupart des gens pensent, sans forcément le croire, que le Dieu des chrétiens, c'est Jésus. Demandez aux gens dans la rue qui est le Dieu des chrétiens, ils vous répondent Jésus. Ils n'ont pas réfléchi trop. Alors que peut-être au départ, Jésus était cette personne qui, contre toute habitude, toute tradition et contre tout tabou finalement, se présentait comme le fils de son papa à qui ce père avait remis les clés de la maison. Et ce serait en partie cette attitude qui a déchaîné contre lui toute cette méfiance et finalement toute cette violence et finalement toute cette christologie et toutes ces confessions de foi que vous avez devant vous souvent. Et tous ces débats. Le Jésus dit historique. Alors, depuis le 19e siècle, encore une fois, et même un peu avant, on a vraiment cherché qui était le véritable Jésus historique au-delà de toute la gangue religieuse des évangiles. Des recherches, finalement, qui rétrospectivement ont été assez vaines, mais qui ont été très intéressantes, cette démarche. Alors, toutes ces recherches, évidemment, chaque fois qu'on le découvrait, ça correspondait à la mode de l'époque où on le découvrait. Alors, on a découvert, en faisant des véritables recherches rationalistes, que Jésus, justement, était un maître rationaliste, enseignant Dieu, la vertu, l'immortalité, ou qu'il était un génie religieux, qu'il était une expression absolue du romantisme, qu'il était un moraliste, strict, qu'il était quoi encore? Qu'il était le champion des idées sociales. Je ne me moque pas. On l'a compris comme ça. Puis, dans les années 60 et 70, du siècle dernier, bien sûr, qu'il était, en fait, véritablement, en fait, depuis toujours, on ne le savait pas, mais là, on le révèle, le défenseur des défavorisés, le rebelle à la classe sacerdotale, sclérosé et, celui qui fait appeler à la méfiance devant tout établissement, toute institution, le révolutionnaire qui bouleverse les rapports sociaux, le pacifiste utopique, et nul doute qu'aujourd'hui il serait écologiste. Mais il n'y a pas eu de recherche faite dans ce sens-là. Mais on pourrait en faire avec toutes ces paraboles, effectivement. En plus, enfin, le parabole du semeur, c'est vraiment. On est presque dans le. La bonne façon de régler le problème. Alors, je ne me moque pas de tout ça, évidemment. Peut-être que le Jésus historique était en partie tout cela, justement. Et que chacun a eu le défaut, finalement, de définir un seul angle. Mais quand on les embrasse tous, peut-être que cette personnalité-là était assez riche pour les prendre tous. Mais, pour aller dans le sens de cette prédication, mais que surtout, il était celui qui considérait Dieu comme son père. Et que face à ce phénomène très particulier, la théologie, ou plutôt ce qu'on appelle la christologie, a dû s'adapter pour transformer cette particularité sauvage, finalement, voire cette sorte de folie, en norme. Donc celui qui se demande Jésus est-il Dieu, oui ou non, doit envisager ça d'abord, et ensuite prendre position. Pour ma part, et là je prends un risque d'essayer de dévoiler une confession de foi personnelle, donc je risque de ne pas faire venir ceux qui ne sont pas là et de faire partir ceux qui sont là, donc c'est bon. Mais vous allez voir, ça va rester flou. J'aime beaucoup retrouver chez Jésus cette singularité extraordinaire. Et j'aime aussi le retrouver comme ça dans cet évangile de Jean. Car au-delà de toute cette emphase, je vois finalement une forme de naïveté. J'aime retrouver chez Jésus cette singularité-là, y compris dans sa croyance qu'il est de la même famille que Dieu est son papa. Évidemment, moi-même, je serais incapable de penser ainsi, d'appeler mon Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus, papa, je ne pourrais pas le faire. Mais j'aime trouver un Jésus qui pense comme ça, au-delà même de moi, ce que je pourrais faire. Mais si j'accepte et confesse tous les autres titres qui ont été conférés à Jésus, à savoir fils de Dieu dans le sens classique du terme, ce fils de Dieu qui me permet à moi de me reconnaître en fraternité avec ce Christ, le mot Christ, voire même la notion de fils de l'homme, si j'accepte tous ces autres titres qui ont habillé Jésus, j'ai un peu de mal quand même à basculer dans le fait de croire que sa croyance particulière irait faire de lui un Dieu au sens strict. Un Dieu de plus. et ce, malgré les cathédrales dogmatiques qui ont été élaborées. En revanche, je ne peux pas m'empêcher de penser que Dieu, et là vraiment on est dans la subjectivité pure, hein, on n'est pas du tout dans l'élaboration rationnelle, je ne peux m'empêcher de penser donc que Dieu avait une affection particulière pour cette personne singulière, qui avait des croyances que je n'ai pas finalement. Cette personne singulière, si sûre en elle-même d'être le Fils de Dieu, particulier, d'être intime à ce point, d'être un avec son Père. Et en cela, je vois en lui beaucoup plus de divin que finalement dans aucune autre personne parmi les autres et innombrables fils et filles de Dieu. C'est en ça que je suis chrétien, en respectant et même en honorant celui dont la singularité extrême a été un véritable don pour l'humanité. Amen.
Nous pouvons tous nous lever pour dire la confession de foi ensemble, qui est sur la feuille de culte. Je crois que Dieu peut et veut aussi tirer le bien du mal. Pour pouvoir le faire, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui tirent leur parti de tout. Je crois que Dieu veut, en toute situation critique, nous procurer toutes les forces de résistance nécessaires, mais il ne les donne pas d'avance pour que nous ne nous reposions pas dans nous-mêmes, mais en lui seul. Je crois que Dieu n'est pas comme une fatalité intemporelle, mais qu'il est attentif et qu'il répond aux prières sincères et à l'action responsable.
Amen.
Amen.